priori, c'est joli ce qu'on entend, mais ça va être moins drôle dans un instant. Une réunion au sommet, Amélie, a été décidée hier entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. À propos d'un sujet crucial pour ces trois pays, l'eau du Nil.
Car les tensions s'aggravent autour du projet de barrage sur le Nil. Un peu de géographie d'abord. Le Nil bleu prend sa source en Éthiopie. Il rejoint le Nil blanc à Khartoum, au Soudan, pour former le Nil qui traverse ensuite l'Égypte jusqu'à se jeter dans la Méditerranée. Il y a 8 ans, l'Éthiopie lançait le grand barrage de la Renaissance. Elle souhaite commencer à produire de l'électricité avec ce méga barrage dès la fin 2020, dès la fin de l'année prochaine. Pour elle, c'est l'outil indispensable à son développement économique. Le Soudan, lui, est partagé. Les paysans espèrent notamment que la grande retenue mettra fin aux inondations, comme ce paysan soudanais le dit à l'AFP. Le Nil bleu, dit-il, est très imprévisible. Une nuit, il est là, et le lendemain, il sera parti ailleurs. Il monte si vite que parfois la parcelle est inondée avant que nous ayons eu le temps de récolter. Des paysans confiants, donc. Les autorités espèrent, elles aussi, profiter de l'électricité produite par les Éthiopiens avec un accord commercial avantageux, mais des fabricants de briques, par exemple, sont moins enthousiastes car le limon dont ils font les briques sera retenu par le barrage. En Égypte, là, on est carrément contre ce projet. Le Nil fournit 97% des besoins du pays en eau. L'Égypte, 100 millions d'habitants, dont 95% vivent sur les rives du fleuve. Des zones surpeuplées, touchées par la pollution des eaux usées, des déversements industriels et sous l'influence aussi du changement climatique. Alors on comprend les inquiétudes du Caire quand l'Éthiopie retiendra les eaux du Nil, même si Addis Abeba a donné des garanties. Des terres asséchées, c'est le risque, hein, une baisse de production agricole, des difficultés à produire de l'électricité au barrage d'Assouan. Et dans un pays qui a traversé des crises politiques majeures, le risque donc d'une déstabilisation encore plus grande. D'où l'impérieuse nécessité d'un accord entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Réunion fixée à lundi prochain, ce sera à Washington, aux États-Unis.
Et voici maintenant une émission de radio d'un genre inédit, ça se passe au Nigeria.
La chaîne s'appelle Human Rights Radio, la radio des droits de l'homme à Abuja, la capitale du Nigeria. Et l'émission, c'est la Brekete Family. Ça commence par une prière et une drôle de manière de dire bonjour.
So help us God as a nation, amen.
Amen.
Yes, in akwa na ekaro, tutoma on a good morning.
Good morning.
Good morning.
Ouais, oui. Et ouais, le good morning est un peu étrange.
Si je
l'accorde.
Si je disais bonsoir comme ça,
ce serait peut-être drôle. Présentateur, il s'appelle Ahmad Isa. Il choisit tous les matins parmi la foule qui se réunit devant les studios quelques chanceux qui vont assister au spectacle et surtout qui pourront parler au micro, demander une aide financière, dénoncer la corruption, se plaindre des mauvais soins dans un hôpital. L'émission se déroule en pidgin. C'est la langue parlée par la classe populaire partout au Nigeria. C'est une des raisons du succès d'audience formidable du programme. L'autre raison, c'est qu'Ahmad Isa donne la parole aux sans-voix et dénonce les dérives des puissants et des pouvoirs publics. Il résout les problèmes aussi face par exemple à un juge peu scrupuleux. Celui-ci obtient finalement réparation. Celle-là voit son amende levée. Un autre va bénéficier de la générosité des auditeurs et récolter une belle enveloppe pour agrandir son commerce. Justice, bonté, humanité. Dans un pays où la corruption est généralisée, particulièrement dans le domaine de la justice, un contre-pouvoir pour les pauvres. C'est pour ça qu'Ahmad Isa est surnommé là-bas le président ordinaire. Ordinaire finalement pas tant que ça.
Un câlin pour terminer.
Oui, un petit peu de douceur,
oui,
charnelle.
Choupinette.
Mais avec un robot. C'est la chaîne CNN qui nous parle de cette prouesse scientifique. Des chercheurs ont recomposé une peau artificielle pour permettre à un robot de toucher, de sentir, de répondre à un contact physique. À l'origine du projet, le professeur Gordon Cheng de l'Université de Munich, il a recouvert son robot H1 de 13 000 capteurs. Mais comment traiter toutes les données captées. Il reconnaît, le professeur, que ça nécessiterait 600 ordinateurs. Mais pourquoi je devrais me traîner 600 ordinateurs, demande-t-il. Imaginez un camion qui me suit tout le temps. Alors, les scientifiques se sont inspirés de cette vérité chez l'homme que quand par exemple, Fabienne, vous mettez une paire de gants, vous sentez les gants au bout de vos doigts. Mais au bout d'une heure sur votre vélo, vous ne sentez plus les gants. Votre cerveau s'est concentré sur d'autres sensations. La pression sur la pédale, le vent froid dans les yeux, etc. Le système nerveux priorise les sensations. C'est ce que fait aussi le robot H1 qui pourrait ainsi remplacer des humains pour des métiers de contact, d'aide aux seniors ou aux malades par exemple. Faut-il s'en réjouir ? Ah, c'est une autre question.
Prouvez-moi que vous n'êtes pas un robot là.
Mais je suis un robot.
Dites-moi un truc gentil.
Mais je suis un robot.
C'est ça. Allez, à demain Amélie ou à plus tard.